Et nous y voici pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité internationale, avec Comaguerre sur Radio Galère, comme tous les mardis à 15h. Et aujourd'hui, Clément est à la technique, je l'en remercie. Et tout va très bien se passer, certainement.
Alors on va commencer.
Merci Clément.
Bonjour.
On va donc commencer par des petites nouvelles, puis après je m'étendrai sur des sujets un peu plus vastes. Alors une petite nouvelle, d'abord, je vous l'avais dit, mais c'est confirmé, donc il y a un nouveau gouvernement au Liban. Alors vous savez, c'est compliqué les gouvernements au Liban, puisque dans l'état actuel de la constitution, des accords régissant les différentes communautés, les différents partis politiques, il faut trouver un équilibre entre les différents courants religieux qui existent. Mais on y est arrivé, donc avec un président chrétien qui est le général Aoun, avec un président de l'Assemblée qui est un chiite d'un petit mouvement, le mouvement Amal, et avec donc un premier ministre, M. Mitaki, qui lui est un musulman sunnite. Il faut y arriver, on y est arrivé, mais c'est à souligner parce que d'une part, on est sorti de la difficulté qui avait été imposée un peu de l'extérieur par la puissance occidentale, je veux dire la France, la puissance qui se considère comme un peu chez elle toujours au Liban, donc la France qui, l'an dernier, vous vous souvenez, était venue dire qu'il était temps de créer un nouveau gouvernement et qui avait mis en avant son candidat pour le poste de Premier ministre, en l'occurrence le fils de Rafik Hariri, le milliardaire libanais, et le nommé Saad Hariri. Bon, finalement, ça s'est arrêté là. Alors, à propos de Saad Hariri et de son père, je vais m'arrêter quand même sur des propos tenus par un historien libanais qui s'appelle Georges Corme, qui est un monsieur respecté, respectable, d'un certain âge, qui connaît tout le Liban depuis longtemps et qui a fait des travaux d'historien très très sérieux. Personne ne conteste ce qu'écrit Georges Corme sur le Liban. Et vous pouvez trouver ces livres dans les bonnes bibliothèques, il n'y a pas de doute, c'est un historien de référence. Et qu'est-ce qu'il dit dans l'article que j'ai lu récemment? D'une part, il confirme ce que je vous disais sur l'accusation faite par on ne sait qui du Hezbollah, disant que c'était le Hezbollah qui avait stocké dans le hangar du port de Beyrouth du nitrate d'ammonium pour s'en servir à des fins terroristes. Et vous vous souvenez que Hassan Nasrallah, donc le responsable, le dirigeant du Hezbollah, avait dit « mais on nous fait rire, nous sommes une armée sérieuse, organisée, avec un niveau d'équipement très très sophistiqué, et on n'utilise pas des moyens de terroristes, j'allais dire presque amateurs, détourner un engrais en y mettant le feu avec du gasoil pour faire sauter telle ou telle installation ». Il avait dit très clairement « c'est pas très sérieux, nous on ne joue pas dans cette catégorie-là ». Nous, on a une armée qui a défendu, qui a même sauvé le Liban de l'invasion israélienne, et on a des armements sophistiqués de pointe. Et Georges Corme, qui n'est pas au Hezbollah, dit exactement la même chose. Il dit effectivement, le Hezbollah a raison. Le Hezbollah a une véritable armée sérieuse, capable de résister à l'armée israélienne, et donc ne joue pas aux terroristes amateurs en manipulant de l'explosif dans des coursives. Mais il dit une autre chose, et ce qui m'amène à ce que je vous racontais auparavant, sur la famille Hariri. Alors écoutez bien, parce que ça se retrouve en ligne, mais je vais vous donner un chiffre qui va vous faire un petit peu sursauter. Du temps où M. Rafik Hariri était vivant, on savait qu'il entretenait d'excellents rapports avec M. Jacques Chirac, président de la République française. On peut avoir des rapports politiques, amicaux, etc. C'était un peu plus que ça. Puisque c'était en fait des rapports de dépendance du président de la République française, de M. Saad Rafik Hariri, puisque M. Rafik Hariri, écoutez bien, M. Rafik Hariri, c'est Georges Corbe qui l'écrit, c'est public, M. Rafik Hariri versait tous les mois à M. Jacques Chirac 800 000 francs de l'époque. Rien que ça. Ça veut dire qu'en fait, on avait une espèce d'inversion d'un rapport néocolonial. C'était le Liban, enfin, ou moins son dirigeant politique, M. Rafik Hariri, qui était très puissant, très organisé, qui avait beaucoup de moyens, qui en fait achetait la République française en achetant son président. Alors vous allez dire, acheter une République pour 800 000 francs par an de l'époque, c'est pas cher. Mais en fait, ça n'allait pas dans les caisses de la République, ça allait dans les caisses de M. Jacques Chirac. Là, ça éclaire un peu cette présidence de la République et les rapports particuliers qui s'étaient noués entre le Liban et la France. Alors on imagine bien que, sachant ça, il ne pouvait pas ne pas le savoir. M. Emmanuel Macron est venu l'année dernière donner des consignes, mais on dit voilà ce qu'il faut faire, etc. On peut se demander, est-ce que les Libanais qui ont fait la sourde oreille à ces demandes avaient des moyens de pression sur lui de la même sorte? C'est-à-dire, est-ce qu'il arrivait, je ne sais pas, je livre la question, mais si un chef de gouvernement libanais a été capable de verser au président de la République française 800 000 francs tous les mois pendant plusieurs années, il y a des liens et des habitudes, aussi mauvaises soient-elles, qui peuvent avoir été conservées. L'histoire le dira. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans l'état actuel des choses. Le Liban va commencer à essayer de sortir de sa crise économique, qui n'est pas une crise pour tout le monde, puisqu'en fait, on a une coupure sociale extrêmement brutale entre des banquiers, les banquiers libanais, on les connaît, sont nombreux, des banquiers qui ont beaucoup d'argent, et une population qui souffre de la faim, qui souffre du manque d'eau, qui souffre du manque de carburant. Donc, la tâche du nouveau gouvernement, c'est de refaire démarrer une société, de sortir au moins la moitié de la population libanaise de la misère et de renouer une vie normale, politique, dans cet environnement qui est en cours de transformation extrêmement rapide par ailleurs. Au titre de cette question de la transformation de l'environnement politique, je mentionne, parce que ça mérite d'être fait, que le président de la République arabe syrienne, je veux parler de Bachar el-Assad, s'est rendu à Moscou, où il a rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Ils ont fait le point de la situation. Et à l'issue donc de cette rencontre, qui s'est passée hier ou avant-hier, le Kremlin a fait sortir un communiqué de presse en disant que l'entretien était très constructif. Et le Kremlin, dans son compte-rendu, dans son message suite à la rencontre, indique que le gouvernement de la République arabe syrienne, donc le gouvernement légal avec son président qui a été réélu il y a de ça quelques mois, est souverain désormais sur 90% du territoire de la République arabe syrienne. C'est-à-dire que ce chiffre-là indique qu'il y a encore quelques résidus d'occupation par des troupes étrangères dans un certain nombre d'endroits entre le nord et l'est de la République arabe syrienne, mais que la presque totalité du territoire est désormais contrôlée par le gouvernement légal. Alors qu'est-ce qui reste ? Probablement encore quelques miliciens, quelques soldats des États-Unis gardant les installations pétrolières de l'Est, mais surtout, il reste l'occupation d'Idleb, qui est donc au contraire à l'extrême nord-ouest de la République arabe syrienne, cette zone qui est occupée par des djihadistes qui sont encadrés par l'armée turque. Donc le signal de cette rencontre entre M. Bachar el-Assad et M. Vladimir Poutine est un signe adressé à M. Erdogan, lui disant « Maintenant, l'affaire est quasiment terminée, il ne reste plus que ce dernier abcès, cette dernière occupation étrangère sur le sol de la République arabe syrienne, il serait temps que ça cesse ». Je pense que le message va arriver, parce que M. Erdogan n'aime pas ce genre de message, mais par ailleurs, il sait écouter et il sait mesurer les rapports de force. Et quand il voit que, au contraire, les rapports de force lui sont favorables, il en use. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc on lui a signifié que l'incident était clos, que la fin de la partie était proche. Ce n'est pas la seule qui s'approche. Voilà un peu pour le Moyen-Orient. Et puis, je fais vite un petit crochet par le Pérou, puisque vous avez peut-être entendu dire, encore que ce soit une vieille histoire pour la majorité d'entre nous, que le responsable dirigeant de ce qu'on a appelé le Sentier Lumineux, donc la guerre maoïste qui a sévi au Pérou dans les années 80, était décédé en prison à l'âge de 86 ans, au bout de 30 ans d'incarcération. Alors M. Abimael Guzman, surnommé président Gonzalo, avait été arrêté en 1992 par l'armée péruvienne fortement conseillée par les États-Unis, condamné à prison à vie, installé dans une prison militaire de très haute sécurité à Callao, qui est le port de Lima, et il y est mort à 86 ans. Donc on peut imaginer, je fais ce crédit à l'armée péruvienne, qu'on ne l'a pas assassiné dans la prison. Il a passé 30 ans, je ne sais pas dans quel état physique il a passé ces dernières années, mais il s'est éteint donc ce dimanche, je crois, ou ce samedi, à l'âge de 86 ans. Ça, c'était à rappeler. Et c'était à rappeler aussi que ce personnage hante encore les nuits de la bourgeoisie péruvienne. La bourgeoisie péruvienne et les États-Unis derrière ont eu une peur bleue de cette guérilla maoïste qui s'est donc développée dans le courant des années 80 et qui en fait s'est éteinte en 92, en gros presque au moment de l'arrestation de son dirigeant, qui était donc le président Gonzalo, comme on l'appelait. Elle a eu très très peur. Elle a eu très très peur et elle n'a pas digéré encore cette peur, puisque quand M. Pedro Castillo, le nouveau président élu, a mis en place son nouveau gouvernement, il y a un certain nombre de ministres qui ont été récusés par l'opposition en disant « ce sont des sympathisants du Sentier Lumineux », donc des guérilleros maoïstes, ce qui n'était pas. Ils pouvaient considérer que les revendications des guérilleros étaient justes, mais ils n'étaient pas membres actifs de la guérilla. Toujours est-il qu'il y a cette espèce d'angoisse qui est restée très très profonde dans le cœur de la bourgeoisie péruvienne, cette angoisse d'une guerre civile. Alors, guerre civile, j'explique. Parce que monsieur le président Gonzalo, donc monsieur Abimael Guzman, donc, qui est décédé, avait une théorie politique qu'il a écrite. C'était un théoricien en même temps qu'un leader de la guérilla. Et il était un théoricien de ce qu'on appelle la guerre populaire prolongée. Je m'arrête un peu là-dessus parce que ce terme peut paraître étrange à ceux qui ne suivent pas ce genre d'actualité. La guerre populaire prolongée, ça veut dire qu'il y a dans le mouvement communiste international des groupements ou des partis qui considèrent qu'il n'est pas possible de renverser la bourgeoisie impérialiste avec un simple coup d'État. On prend le palais de la présidence et on s'installe. Il faut une guerre populaire prolongée pour petit à petit transformer les rapports sociaux de telle façon qu'au moment où la guérilla, il y a un moment où la guérilla est suffisamment appuyée, en dehors de la guérilla, dans les campagnes, dans les usines, dans les villes, etc., dans les banlieues, dans les bidonvilles, pour prendre le pouvoir sans difficulté. Le pouvoir tombe quand il est mûr. Qu'est-ce qu'on a là? On a simplement un écho à la guerre populaire prolongée menée par le Parti communiste chinois des années, en gros, 1927 à la prise de pouvoir 1949. Ça fait guère que 22 ans. C'est ça qui s'est passé en Chine, avec en plus une intervention extérieure, puisque le Japon, dans cette période-là, a envahi la Chine. Tout ça est connu. Donc la théorie politique du président Gonzalo, c'était la guerre populaire prolongée, disant il est impossible d'aller vers le socialisme, de renverser les pouvoirs des bourgeois pro-occidentaux et pro-impérialistes, sans mener une guerre, c'est-à-dire il faut abattre le système avec une intervention de type militaire. C'est la guérilla, c'est pas deux armées professionnelles qui s'affrontent, mais c'est ça, il faut le battre militairement et on le bat en même temps politiquement. Donc il y a tout un courant encore, en dehors du Pérou, qui faut continuer à faire référence au président Gonzalo et à sa théorie de la guerre populaire prolongée. C'est ce qui explique, alors ça on ne vous le dira pas dans la presse française grand public, on a parlé, je crois que c'est dans le Figaro, un petit peu dans des journaux comme ça, on a parlé du décès de ce personnage, lui qui a fait trembler de peur une bonne partie de l'appareil occidental, pour s'arrêter sur une question mineure, mais on est tout à fait dans le style de la presse people, la question était de savoir comment allait être enterré le président Gonzalo. Grave question. Alors la loi péruvienne est totalement claire. La personne qui, l'héritière, donc en l'occurrence son épouse, qui est vivante, qui elle aussi a été condamnée à perpétuité, mais qui n'est pas morte encore en prison, d'après la loi, c'est l'épouse qui doit choisir le mode d'enterrement, le type de funérailles du défunt. Et elle peut choisir librement entre un enterrement classique ou une incinération. C'est les deux possibilités qui lui sont ouvertes dans la législation péruvienne. Or, il se trouve que ça devient, c'est très, très press people, on voudrait, alors la droite péruvienne, qui n'est toujours pas remis de l'émotion, les émotions que lui a suscité le président Gonzalo, voudrait déroger à la loi. Non, il ne faut surtout pas l'enterrer, parce que ce sera un martyr, sur sa tombe il va venir des gens qui sont peut-être de nouveaux guérilleros, c'était très mauvais, il faut que ce personnage-là disparaisse. Il est mort physiquement, mais il faut même qu'il disparaisse des mémoires. Alors évidemment, peine perdue, mais voilà à quoi s'occupe la bourgeoisie péruvienne, bien embêtée parce qu'elle vient de perdre le pouvoir qui a été pris, effectivement, par Pedro Castillo, un paysan des hauts plateaux andins. voilà, je voulais insister là-dessus parce que c'est une façon, donc, de la presse bourgeoise occidentale de parler d'un phénomène en le prenant par le plus petit côté de la lorgnette, c'est-à-dire comment on va enterrer M. Guzman, le président Gonzalo, dans un cimetière, et lequel, à quel endroit, et est-ce qu'il ne va pas devenir un martyr. Mais de toute façon, il est déjà, pour ceux qui l'ont suivi, il est déjà un martyr, et pour les gens qui sont intéressés à sa pensée sur la guerre populaire prolongée, il existera où qu'il soit enterré, et quelle que soit la forme de ses funérailles. Alors l'autre idée a été de dire, il faut que ses cendres soient jetées en mer, et quelqu'un à droite dit, oui, mais alors, chaque fois qu'un Péruvien verra la mer, il pensera à Gonzalo, c'est pas bon non plus. Voilà. Voilà où on est réduite, la bourgeoisie, dans ses inquiétudes d'un changement de régime qui est en train d'avoir lieu sous nos yeux. C'était, voilà, je viens un petit peu en Europe avant de venir aux sujets les plus importants de cette journée. Il s'est passé des manifestations petites à l'échelle du pays dans le Monténégro. Alors le Monténégro, je vous le situe, c'est un morceau de la Serbie qui a été détaché de la Serbie après l'éclatement de la Yougoslavie, donc je ne rappelle pas la guerre de Yougoslavie, etc., etc. C'est 600 000 habitants, avec cet avantage d'être gestionnaire, enfin d'être à la tête d'une très très jolie petite région en bord de mer Adriatique, avec des qualités spectaculaires, comme une espèce de riviera sur la mer Adriatique. Et ce Monténégro a été, alors qui depuis donc, qu'il a été séparé de la Serbie, a été, j'allais dire, acheté par l'OTAN et l'Occident, alors je mets le « acheté » entre guillemets, mais enfin ça s'est passé très très vite, puisque en fait, très très vite, ce petit pays a été intégré dans l'OTAN, histoire de dire, au moins la Serbie ne pourra jamais plus aller au bord de la mer, on la gardera bien loin à l'intérieur des terres pour qu'elle n'ait pas de mauvaises idées. Elle n'a pas de mauvaises idées, bien entendu, mais là, on prend des précautions. Et d'ailleurs, la même Serbie est entourée de l'autre côté par la Nord-Macédoine, par l'Albanie, enfin, tout ça, tout pays, tous membres de l'OTAN depuis peu de temps, et donc la Serbie ne peut pas faire de folie militaire si jamais elle en avait envie, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé au Monténégro ? Quelle importance ça ? Mais c'est très intéressant à suivre, même si c'est petit à l'échelle de l'actualité politique de la planète. Au Monténégro, il y avait des croyants chrétiens qui, comme dans le reste de la Yougoslavie, au moins la partie la plus orientale de la Yougoslavie, étaient de confession orthodoxe. Et donc, dans la structure des églises orthodoxes, il y avait un patriarche, qui était le patriarche donc, de Belgrade, de la Serbie, qui était évidemment en même temps patriarche du Monténégro, puisque le Monténégro était une partie de la Serbie. Voilà, Tipak, ce monsieur décède, et donc son remplaçant est appelé à venir se présenter au Monténégro dans un monastère orthodoxe pour prendre sa place de patriarche du Monténégro venant de Serbie. Et là, il y a eu alors, le gouvernement s'est divisé, c'est-à-dire entre le président, qui est donc l'homme des Occidentaux, M. Djunaković, et son nouveau Premier ministre, il y a eu un désaccord. Le Premier ministre nouveau a dit, bon, ben, c'est pas grave, hein, parce que c'est pas parce que le patriarche est à Belgrade que Belgrade va donner ses ordres à la société monténégrine et me donner des ordres. Et au contraire, le président, l'ami de l'OTAN, pour faire simple, Djunaković, a dit, non, il n'en est pas question, il faut que l'église orthodoxe monténégrine, alors je ne sais pas combien il y a d'orthodoxes pratiquants ou fidèles dans les 600 000 habitants du Monténégro, il doit y en avoir forcément, je veux absolument avoir une église indépendante. On va dire, qu'est-ce que c'est, tempête dans un verre d'eau? Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que le fait de vouloir arracher donc au patriarche de Belgrade les chrétiens orthodoxes monténégrins, c'est une tactique de l'Occident, qui est véhiculée par l'OTAN et par les diplomates occidentaux, consistant à dire, il ne faut surtout pas qu'il y ait des influences, même religieuses, dans des populations que nous avons décidé d'annexer. C'est le cas du Monténégro. Et donc, il faudrait créer un patriarche monténégrin qui n'aurait plus rien à voir avec Belgrade. C'est exactement la même démarche que celle qui est en cours depuis plusieurs années en Ukraine, consistant à dire, il faut surtout que les Ukrainiens de confession orthodoxe ne dépendent pas de Moscou, puisque ce serait le cas. Et voilà le jeu, les petits jeux. Alors ça a l'air de rien, mais et c'est là-dessus que je m'arrête. quand dans les Balkans, donc il y a eu des manifestations extrêmement violentes, des rues coupées, etc. Là, il y a eu la moitié des habitants du Monténégro ont participé à une manifestation pour exiger que le patriarche donc, de Belgrade serbe prenne la place du patriarche de la tête de l'Église orthodoxe monténégrine. Bon. Donc, quand vous avez la moitié de la population d'un pays, aussi petite soit-elle, qui manifeste, il y a une vraie tension politique. Tout ça pour dire, c'est une phrase peut-être un peu générale et une conclusion peut-être un peu générale, que quand dans les Balkans, toujours au même endroit, rappelez-vous la guerre de Yougoslavie, quand dans les Balkans il y a de l'agitation, il y a des tensions publiques, ça veut dire qu'il y a une situation internationale troublée. C'est là-dessus que je conclus pour l'instant et que je m'arrête, c'est-à-dire que le fait que l'Occident, les États-Unis et l'OTAN aient annexé le Monténégro, l'Albanie et maintenant la Macédoine du Nord, montre bien que cette captation, cette prise en main de cette partie-là des Balkans ne passe pas toute seule et que donc les plans impérialistes-là sont soumis à des critiques qui sont très très profondes dans la population avec son passé culturel, ses habitudes. Les Balkans, c'est un endroit délicat. On a parlé souvent, souvenez-vous de l'assassinat de l'archiduc en 1914, on a souvent parlé de la poudrière des Balkans. Ce que je veux dire, c'est qu'un incident comme celui relatif donc à l'installation du nouveau patriarche de l'Église orthodoxe au Monténégro est un signe que la poudrière est toujours là et l'OTAN ferait bien de s'en aviser. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont cru que l'affaire était classée. On ne classe pas l'affaire, d'autant plus que, outre la question du Monténégro, reste la question du Kosovo qui est connue, et puis reste la question de cette fameuse Bosnie-Herzégovine à deux têtes qui ne fonctionne pas, dont chacun voudrait se débarrasser. Donc les Serbes de la République serbe de Bosnie-Herzégovine voudraient reprendre leur autonomie, rejoindre la Serbie. Il y a là un équilibre fragile, imposé par les armes, par l'OTAN, par une guerre donc très très dure qui a fait beaucoup de dégâts et qui ne tient pas. C'est une solution bancale qui, sur chaque petit incident, parce que la question de l'Église monténégrine est un petit incident à l'échelle du globe, mais sur chaque petit incident, on voit que la fabrication de la carte des Balkans par l'OTAN et les États-Unis à partir entre 1991 et 1999 est une création éminemment instable. Donc on en reparlera nécessairement à un autre moment. Je ne sais pas quand. Mais on verra ça un peu plus tard. Ce que je voudrais aborder maintenant, qui est beaucoup plus important, c'est ce qui se passe aux alentours de l'Afghanistan. Parce que là, on a manifestement un désordre général dans les relations internationales qui suscite toute une série de réactions et de réponses. Alors la première réponse, celle qu'on vous a vendue dans les médias, les nôtres, c'était de dire le G20 et le G7 se sont réunis. Le G7 s'est réuni en conférence virtuelle, par téléphone, pour dire qu'il fallait absolument créer les conditions pour que le gouvernement nouveau de Kaboul soit conforme à nos attentes, alors inclusif, comme on a dit, il fallait qu'il y ait des femmes, des opposants, etc. Bon, manifestement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les vœux jetés comme ça, peut-être principalement d'ailleurs à l'attention des oreilles occidentales, n'ont pas été exaucés par les talibans. Les talibans ont fait ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est comme ça, et on a beau pleurer dans la presse occidentale et dans les chancelleries occidentales, pour l'instant, on n'a pas trouvé le moyen de les faire changer. Donc, je ne m'arrête pas là-dessus, mais ce n'est pas très intéressant, ça fait partie d'une espèce de gouvernement par le verbe, on fait croire qu'on défend telle ou telle valeur, telle ou telle catégorie de la population, puis en fait, on parle simplement pour les auditeurs, beaucoup plus que pour les gens qui pourraient faire quelque chose sur la situation. Ceux qui peuvent faire quelque chose sur la situation en Afghanistan, c'est les pays qui sont tout autour. Parce que eux, ils ont d'abord, dans certains cas, des frontières communes. S'ils n'ont pas des frontières communes, ils ont des relations très anciennes avec ce pays. Je pense à la Russie, ci-devant URSS. Je signale que la frontière de l'URSS s'arrêtait au nord de l'Afghanistan, jusqu'en 1991. Et puis, de la même façon, donc l'Ouzbékistan était dans l'URSS, le Tadjikistan était dans l'URSS, le Turkménistan était dans l'URSS. Tout ça fait que la Russie a toute une série de liens historiques avec ce pays-là. Et puis il y a la Chine qui a une petite frontière, mais qui a une frontière avec l'Afghanistan. Et puis il y a l'Iran qui a une longue frontière avec l'Afghanistan, qui connaît bien. Et puis il y a aussi les deux frères un peu ennemis, mais encore que les relations soient moins tendues maintenant, qui sont le Pakistan et l'Inde. Alors le Pakistan a une longue frontière avec l'Afghanistan. Il a été, c'est clair, mais c'est manifestement plus le cas, une zone d'accueil et de refuge des talibans le long d'une frontière qui était relativement poreuse, avec la complicité d'ailleurs de l'armée pakistanaise. Et puis l'Inde, qui n'a pas de frontière commune avec l'Afghanistan, mais qui est quand même tout près, parce qu'il y a juste l'épaisseur du Pakistan au nord du pays. Donc l'Inde, qui a des intérêts et qui a des liens avec cet Afghanistan historique du temps où effectivement il n'existait pas la partition entre le Pakistan et l'Inde actuelle. Tout ça fait que tous ces gens-là regardent de beaucoup plus près que le diplomate occidental de base, qui lui parle pour les télévisions, regarde de beaucoup plus près la situation concrète sur le terrain, qui n'est pas forcément absolument identique selon qu'on est à Kaboul, très grosse ville, équipée à peu près avec les moyens modernes, selon qu'on est dans des zones plus désertiques, selon qu'on est très très loin de la capitale, dans des zones assez reculées. Tout le monde n'a pas le même regard. Mais ce que je voulais signaler, c'est que la semaine dernière, s'est réuni, alors là aussi c'était en virtuel, s'est réuni le BRICS. Et je vais m'arrêter sur cet organisme, le BRICS. Alors en abrégé, B comme Brésil, R comme Russie, Inde, comme I comme Inde, pardon, C comme Chine et S comme Afrique du Sud, l'idée South Africa en anglais. C'est intéressant parce que vous rassemblez là quand même 40% de la population mondiale, à peu près 25% du PIB mondial, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et vous avez un organisme qui fonctionne depuis un certain temps. Et c'est sur cet organisme que je vais m'arrêter. Parce qu'on va dire, c'est un assemblage hétéroclite entre la Chine et son parti communiste, l'Inde qui n'est pas du tout communiste, sauf dans certaines républiques de la Fédération, la Russie qui est sur une trajectoire à la fois nationaliste mais capitaliste pour l'instant, tout ça fait un drôle de mélange. Le Brésil, c'est Bolsonaro aujourd'hui, c'est pas très, très progressiste. L'Afrique du Sud, situation complexe, bon, je ne m'étale pas sur chacun des pays, mais d'où vient les BRICS? Alors d'abord, ça a été les BRIC. L'Afrique du Sud n'est rentrée qu'après. Tout ça, le BRIC est une idée qui germe dans la tête d'un certain nombre de ministres des Affaires étrangères, le Brésilien, le Chinois, l'Indien et le Russe, un beau jour du mois d'octobre 2006, à la suite de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient tous les ans à cette époque. Qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident de créer un groupement. Un groupement, donc, vous allez dire, c'est la carpe et le lapin, de pays qui n'ont pas de régime politique homogène, mais qui sentent quand même qu'on est dans une période un peu particulière, où les États-Unis se mettent à bombarder partout, interviennent ici et là, mettent en place des coups d'État quand ils ne les font pas tout de suite, on sort à peine des débuts de la guerre d'Irak, et ils décident de créer une espèce, c'est un club, on va dire, hein, de pays qui sont très très éloignés, mais il y en a un avec l'Afrique du Sud, il y en aura un dans chaque continent. Et ils décident qu'ils ont intérêt à travailler en commun sur toute une série de sujets. Et au centre de ces sujets, c'était vrai à l'époque, et ça le reste, il y a la lutte contre le terrorisme. Parce qu'ils ont bien vu, comme nous tous, qu'il y avait des actions terroristes, on va parler un peu plus tard du 11 septembre 2001, mais ils se disent qu'effectivement, c'est quand même par là que les États-Unis viennent s'installer. D'abord, ils sont installés en Afghanistan depuis le mois d'octobre 2001, et ils sont en train d'intervenir, alors ils mettent leurs pieds un peu partout dans cette zone-là du monde, ils essayent d'ouvrir des bases dans les anciennes républiques soviétiques, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, etc. Donc là, on a une espèce de réflexe de défense en disant, le monsieur, le chef là qui vient de très très loin, qui depuis Washington essaye de gouverner le monde, vient remuer ses gros sabots dans notre environnement immédiat. On a quand même intérêt à se concerter entre nous pour pas se laisser manger séparément. C'est-à-dire, l'union fait la force. Alors, on ne crée pas une union politique, il n'en est pas question, puisque les régimes et les partis sont beaucoup très très différents les uns des autres. Mais enfin, on se connaît, on se rencontre régulièrement, on échange des informations, en particulier sur le terrorisme islamiste, qui nous dérange les uns et les autres, et on fait connaissance sur toute une série de sujets. On fait connaissance de quelle façon? Simplement, depuis 2006, il y a eu très régulièrement 150 réunions à des différents niveaux, dont 20 réunions au niveau ministériel, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre des Affaires de l'Économie. Donc, tous ces pays-là ont fait connaissance, alors à travers à la fois leurs officiels politiques, les officiels gouvernementaux, à la fois à travers des échanges d'universitaires, de chercheurs, à la fois avec des échanges économiques sur des questions d'intérêt commun, c'est-à-dire que, et ça on n'a pas voulu le voir en Occident, on a traité ça d'un revers de la main, bon, c'est des gens qui se rencontrent comme ça, mais ils n'ont pas grand-chose en commun. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est qu'ils ont dit, il y a un adversaire qui nous est commun, qui vient se mettre au milieu de nos régions, entre nos pays, et qui veut dicter la politique dans notre région, là où nous avons nos pays. C'était ça le point de départ tout bête. Donc on échange, on se serre un peu les coudes, on se connaît mieux, et puis on fait cette imbrication, ce tissage de relations entre gouvernements, se descend à des niveaux plus bas, je vous dis universitaires, étudiants, économistes de toutes sortes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dans le cadre des BRICS avoir un étudiant brésilien qui va faire des études en Chine, un étudiant russe qui va faire des études en Afrique du Sud, un étudiant indien qui va aller aussi faire des études en Russie. On a toute une série de liens, c'est-à-dire qu'on a affaire à 5 pays qui se connaissent, qui travaillent ensemble sur les questions d'intérêt commun, qui peuvent avoir des positions différentes sur telle ou telle question à l'ordre du jour international, mais qui, pour les questions régionales, sont toujours en alerte et se voient dès que nécessaire quand ils ont un problème commun. Or, le problème commun qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'arrivée à Kaboul du gouvernement des talibans. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, cette réunion, donc, a été intéressante parce que, d'une part, elle a permis à chacun des participants, des 5 participants, d'exprimer un point de vue général sur la situation, et elle a débouché, en particulier, sur une déclaration commune, alors j'insiste, déclaration commune du Brésil, de la Chine, de l'Inde, de la Russie et de l'Afrique du Sud sur le danger terroriste en Afghanistan, et une affirmation tout à fait claire que ces 5 pays sont totalement d'accord pour empêcher par tous les moyens dont ils disposent, qui ne sont pas tout à fait nuls, il s'agit quand même de grands, grands pays avec d'énormes moyens, sont donc prêts à empêcher toute diffusion d'un terrorisme qui aurait ses racines chez les talibans. Avis à la population et avis au gouvernement, au nouveau gouvernement de Kaboul. C'est tout à fait clair. Alors, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que ça dérange en Occident cette espèce de connivence entre ces pays, oui, qui par ailleurs ont beaucoup de différences entre eux, mais il faut quand même relever que là où c'est d'intérêt commun, c'est-à-dire la région dans laquelle ils vivent, ils sont installés, les populations qu'ils gouvernent, hein, près de 3 milliards d'habitants, c'est pas tout à fait rien, montrent bien qu'ils ont bien décidé de ne pas laisser une espèce d'abcès afghan qui dégénérerait sur les alentours. Alors bien entendu, on va dire, oui, mais ils ne sont pas occupés de la question des femmes, ils ne sont pas occupés de... Oui, mais ils se sont occupés d'abord d'éviter qu'il y ait des terroristes qui se forment là, qui achètent des armes ou qui les trouvent parce que les États-Unis en laissaient beaucoup, et qui se mettent à circuler, qui en Russie, qui en Chine et tout, pour faire des attentats d'un type nouveau. Ça, ils ne veulent pas, ils l'ont dit, et par ailleurs, ils ont dit autre chose, on est là, ce gouvernement le prend pour ce qu'il est, pour l'instant, on constate... C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, que la population afghane, je laisse de côté le petit commandant Massoud, la population afghane s'en accommode. On verra bien si elle doit intervenir, mais de toute façon, et c'est une position que la Russie et la Chine ont sur la plupart des sujets, sur la plupart des pays, on prend les gouvernements nationaux comme ils sont. Et de toute façon, nous n'essayons pas de les renverser militairement. C'est à la population de chacun de ces pays de voir, de faire le bilan de ce gouvernement, du progrès social ou économique qu'il génère, et c'est à elle de décider si elle veut s'en débarrasser. Ce n'est pas une intervention militaire extérieure qui va en juger. C'est-à-dire qu'on a quand même là l'affirmation d'une ligne qui est à peu près totalement opposée à celle des États-Unis. Alors bien sûr, Biden est allé jusqu'à dire « Non, non, mais on n'était pas là pour créer la démocratie, on voulait simplement qu'il y ait un peu d'ordre qui règne comme il faut, et on ne voulait pas que les talibans reviennent. » Bon, ils sont revenus, mais c'est pas ça. C'est une affirmation concrète, c'est-à-dire que chercher l'erreur, il n'y a pas d'erreur, Aujourd'hui, et depuis donc depuis 1991 et depuis que ces BRICS se constituaient, aucun des cinq pays n'est allé porter les armes chez un de ses voisins. On ne peut pas dire la même chose des États-Unis, loin s'en faut. Et donc là, on a face à face la ligne des BRICS, j'allais dire pour faire simple, qui est tout à fait en opposition avec la ligne des États-Unis. Alors on ne peut pas dire qu'il y a une ligne affirmée, toujours il y a une pratique des États-Unis qui fait que, en particulier depuis 2001, ils n'ont jamais arrêté d'aller mettre la guerre à l'extérieur. C'est ça le constat qu'il faut faire. À partir de ce moment-là, on se dit, effectivement, on est face à la croisée des chemins, c'est l'expression très traditionnelle, mais enfin, on voit bien qu'on a deux façons d'appréhender l'état du monde et les rapports entre les pays, c'est-à-dire, d'une part, soit je ne suis pas d'accord avec vous et je bombarde, que ce soit avec des bombardiers ou avec des drones, ou des forces spéciales, enfin, quels que soient les moyens militaires employés, ou bien je considère que je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vous laisse faire vos affaires dans votre pays. Je considère que c'est votre population qui, in fine, déterminera si vous êtes dans la bonne orientation, c'est-à-dire si vous convenez à la majorité de cette population. Ce n'est pas nous, et surtout pas les armes à la main. Les armes à la main, on ne crée pas, c'est prouvé maintenant, on ne crée pas des régimes progressistes, les armes à la main. Je vous dirai quelques mots d'ailleurs du fameux président là, qui a fui, du fameux président afghan. Parce que ça mérite, sa biographie vient d'être publiée. J'en dis quelques mots maintenant, parce que c'est trop croustillant. Monsieur Ashraf Ghani a fait, il y aura des détails, parce que je pense que je les publierai, mais il a fait, alors c'est un citoyen des États-Unis qui a vécu un petit peu en Afghanistan, mais pas beaucoup, il faisait partie d'une famille de la grande bourgeoisie afghane, et il a donc été dans les plus belles universités, il est professeur d'anthropologie dans la plus belle, une des plus belles universités des États-Unis, donc Columbia. Il a travaillé chez Goldman Sachs, il a été au Fonds monétaire international, enfin, il a fait une carrière assez caractéristique de ces personnages qui sont un peu, j'allais dire hors sol, c'est-à-dire ces personnages qui sont tellement implantés dans ces milieux de la gouvernance internationale, en particulier du côté occidental, qu'ils ont une nationalité, mais en fait il en avait deux. Il avait la nationalité des États-Unis où il n'était pas né, et la nationalité afghane où il était né. Et il a été obligé, alors il a été nommé ministre des Finances du premier gouvernement après l'invasion états-unienne à Kaboul, donc du gouvernement de Hamid Karzai, et puis il a remplacé Karzai, je crois que c'est en 2015, à la tête pour devenir président de la République afghane occidentalisée. Et pour occuper ce poste, le poste de ministre des Finances à partir de 2001 et puis le poste de président à partir de 2015, ben il a simplement déchiré sa carte d'identité des États-Unis. Enfin, c'est formel, c'est une image que je donne, mais il a abandonné sa deuxième nationalité. C'est-à-dire qu'on a là un exemple de ces personnages qui n'ont plus, ils sont un peu déracinés, c'est-à-dire ils sont au service de la domination impérialiste, et puis ils vont s'installer ici ou là en fonction des besoins de cette dite domination impérialiste. Et là, ben, ils avaient besoin d'un homme de chez eux, d'un homme de confiance. Alors, il faut voir les photos de ce personnage sur cette longue période, finalement, sont très intéressantes. On le voit serrer la main et embrassant très fort Madeleine Albright. On le voit avec Barack Obama. On le voit avec John Kerry, le secrétaire d'État de Obama. On le voit, bien sûr, il avait été reçu encore par Biden au mois de juin à la Maison-Blanche. Donc, alors, il faut le considérer, je pense qu'à Washington, on le considérait comme ça, comme un employé qu'on envoyait dans la colonie afghane. C'était tout. C'était le gouverneur de l'Afghanistan, qui était un citoyen des États-Unis à qui on avait gardé sa nationalité afghane pour les besoins de la présentation. Et c'était tout. Que ce personnage-là s'en aille le jour où on n'a plus besoin de lui, enfin, le jour où les carottes sont cuites, c'est à peine surprenant. Alors, on sait qu'il est parti avec quelque chose comme 160 millions de dollars dans son hélicoptère en direction des Émirats arabes unis. Mais personne ne s'est beaucoup formalisé. Il va probablement reprendre la nationalité états-unienne qu'on lui donnera bien volontiers, puisqu'au fond, il est toujours resté profondément, même si les apparences administratives sont contre, il est toujours resté un employé de Washington. Alors, de très haut niveau intellectuel, un anthropologue de qualité, qui a même écrit un livre qui est trop rigolo, dont le titre est trop rigolo, puis c'est « Comment on gouverne un pays en faillite ?» Voilà. Alors, il n'a pas gouverné, il l'a gouverné un certain temps, mais la faillite est arrivée quand même, donc il n'a pas observé toutes les prescriptions qu'il avait mises dans son ouvrage et qu'il avait voulu un succès d'estime dans l'intelligentsia occidentale. Mais je reviens à mes BRICS. Je reviens à mes BRICS pour dire que les BRICS, c'est pas simplement donc, cette réunion de chefs d'État, là, même si elle a été virtuelle, pour dire que chacun des chefs d'État concernés y a dit pas mal de choses. Et je vais commencer par les propos tenus donc en vidéoconférence par le président chinois. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit voilà ce dont, chers collègues, voilà ce qui nous rassemble et voilà ce que nous devons faire dans cette situation compliquée et tortueuse. L'ordre international est en changement, on a compris, et il faut que nous ayons une position unie sur la façon d'aborder cette période de troubles difficiles. Nous devons, alors je résume ces propos, nous devons promouvoir un multilatéralisme réel. Ça veut dire on ne juge pas un pouvoir ou un État en fonction de la couleur de son pouvoir politique ou d'une partie qui le dirige, mais on respecte les autres États, on essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble et on le fait en respectant l'un et l'autre. Nous devons promouvoir une solidarité globale contre la pandémie. Là aussi, il insiste en particulier en disant, et il dit dans son discours, je vous signale ou je rappelle que la Chine populaire a déjà envoyé dans le monde 1 milliard de doses de vaccins. Et 1 deuxième milliard est en cours d'expédition. Je signale aussi, c'est ce que dit le président chinois, que nous avons, la Chine populaire a donné 100 millions de dollars au COVAX, donc le mécanisme mis en place par l'OMS pour financer les achats de vaccins par les pays les plus pauvres. Bon, donc la Chine a fait sa part et dit nous devons travailler ensemble. Et il sait que dans les 5 BRICS, si la Chine a très bien tiré son épingle du jeu, a très bien géré la conduite de la pandémie, les autres États, en particulier l'Inde et l'Afrique du Sud et le Brésil, ont eu beaucoup de difficultés. Donc nous devons avoir une solidarité globale et nous aider là-dessus. Nous devons promouvoir l'ouverture et une croissance économique tournée vers l'innovation. Donc ne sortons plutôt des sentiers battus, réfléchissons à l'après-situation, c'est-à-dire à la décarbonation, à la crise climatique, tout ça nous devons le réfléchir en commun. On doit d'autant plus le réfléchir en commun que nous pesons quand même 40% de la population mondiale et un quart du PIB mondial. Donc les orientations que nous prenons en commun et que nous défendons en commun pèsent sur l'avenir général de l'humanité. Donc voilà les thèmes abordés par le président chinois, donc qui sont conformes à tout ce qu'il a déjà dit sur ce sujet, mais qu'il était bon de rappeler, et il l'a fait avec une certaine force en parlant de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, de tout ça, en disant tout ça, on doit y mettre notre grain de sel, on doit peser dans cette évolution-là, tous ensemble, tous les 5. Et puis, il a, comme c'était l'Inde qui avait organisé, qui avait la responsabilité physique de cette organisation, de cette conférence, c'était la troisième donc, conférence des chefs d'État des BRICS depuis 2006, puisqu'il y en a eu en gros une par an, avec juste un décalage l'année dernière. L'Inde a tenu des propos très intéressants, puisque alors on sait que les rapports de voisinage entre l'Inde et la Chine ne sont pas toujours faciles. Il y a une espèce de jalousie de l'Inde qu'on peut comprendre par rapport au développement extrêmement spectaculaire de la Chine, son voisin. L'Inde paraît un peu à la traîne par rapport au développement très très rapide de l'économie chinoise. Et donc l'Inde, et le Premier ministre de l'Inde qui a pris la parole, il était donc l'hôte de cette conférence, a parlé donc de coopération, de consensus, et il a appelé ça les 4 C, coopération, consensus, connivence, et je crois que c'est. Bon, donc il a dit, alors c'était très intéressant parce que par rapport à des frictions qui existent, et qui existeront peut-être encore entre l'Inde et son grand voisin, la Chine, là il y a un langage qui est quand même nouveau en disant, par rapport à la situation, et par rapport à la situation créée par la crise afghane et par le départ des États-Unis d'Afghanistan, nous avons effectivement beaucoup plus de points communs et d'intérêts communs que nous en avions précédemment. Et donc il y a une espèce de reconnaissance par le Premier ministre indien de cette solidarité de fait face à cette situation locale, qui est une situation régionale plutôt nouvelle, à laquelle les uns et les autres sont confrontés. Alors, vous allez dire, le Brésil et l'Afrique du Sud sont loin de ça, mais quand même entre la Russie, la Chine et l'Inde, ça pèse beaucoup dans la balance du BRICS. Que fait le BRICS ? Alors je reviens encore sur ce BRICS que je ne vous ai pas présenté. Si on va peut-être faire une pause musicale avant que je revienne au BRICS, je vois Clément qui dit c'est le moment de s'arrêter. Alors c'est un clin d'œil parce que cette Chine qui donc pèse si lourd, qui donne des conseils et qui suit les conseils qu'elle donne, c'est-à-dire moi, quand le président chinois a dit « je promouvois l'ouverture, la solidarité globale, le respect mutuel », c'est ce qu'il fait dans les relations avec les autres pays, aussi petits soient-ils. C'est ça qui est très très important. Je vais aussi prendre par exemple, il y a un échange de messages entre le président de Cuba et le président chinois qui est très très révélateur, puisqu'en fait, on a l'impression que c'est deux égaux qui se parlent. Alors, entre les 11 millions de Cubains et le 1,4 milliard, c'est pas deux égaux sur le papier, c'est pas deux égaux économiquement. Mais en fait, ils disent on a un langage commun qui est qu'on partage ces valeurs-là, on doit respecter chaque pays et le choix de ses habitants, on doit être ouvert à l'innovation, on doit prévoir l'avenir commun de l'humanité sur cette planète qui est unique, parce que ça, c'est aussi le discours chinois qui est nouveau. Nous avons un avenir commun et on va essayer d'empêcher les gens qui veulent régler cet avenir commun à coup de bombardier de le faire. On veut régler l'avenir commun en commun. C'est aussi bête et, j'allais dire, banal que ça. Voilà. Donc tout ça pour tirer un coup de chapeau sur les Chinois qui arrivent à tenir ce discours, mais qui viennent de loin, on le sait. Et je voulais juste passer une petite musique qui est une musique classique en Chine qui s'appelle « Longue vie au président Mao ». Un clin d'œil. Enfantin, mais il faut rappeler qu'il y a 100 ans, les armées occidentales traînaient leurs rangers à peu près sur toute la Chine, que ce soit des rangers allemands, des rangers japonais, des rangers français, des rangers italiens, des rangers britanniques. Tout le monde y était, tous les colonialistes s'essuyaient les pieds sur la population chinoise, et donc le siècle de Mao, pour simplifier, a bien changé cette situation, puisqu'aujourd'hui, le président chinois se permet de donner des orientations pour l'avenir de la communauté humaine en travaillant avec qui peut travailler, puisque j'ajoute que, outre les BRICS, il y a aussi la deuxième organisation mise en place, elle, en 2000, ce qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire quelques temps avant, peu avant, début 2001, avant les attentats du 11 septembre dont je vais parler, qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai. Toujours ces mêmes termes, coopération. On ne s'aligne pas, il n'y a pas un dominant qui exerce son influence sur les voisins. Il y a une organisation de coopération où là on retrouve la Chine, la Russie et les républiques d'Asie centrale ex-soviétiques, donc Kazakhstan, Turkménistan, Kyrgyzstan et Tadjikistan. Et cette organisation d'ailleurs de coopération de Shanghai se réunit cette semaine à Douchanbé, capitale du Tadjikistan, pour continuer ce travail de contrôle de la situation afghane en attendant qu'elle se décante, c'est-à-dire que le pouvoir aujourd'hui de fait à Kaboul, avec ce gouvernement qui est déclaré, ce gouvernement taliban, suive un chemin qui ne soit pas un danger pour tous ses voisins. Et si en plus il est un danger pour la population afghane, il reviendra à la population afghane de régler cette question-là, parce que ça ne se règle pas par les armes. Et je me fais l'avocat, encore que j'ai beaucoup de choses à dire sur le personnage, parce qu'un certain Dominique de Villepin, que vous connaissez, a été interviewé la semaine dernière sur France Inter, et il a parlé donc de la situation issue du renversement du régime à Kaboul. Alors il a dit: ce n'est pas le rôle des armées d'assurer la responsabilité de protéger. Et puis il a dit, les armées non seulement n'ont pas réglé la question terroriste, mais elles ont aggravé les choses. Ça, ce qui est très très important. Et il dit, les démocraties sont incapables de reconnaître publiquement leurs erreurs. En ajoutant, les leçons de nos échecs ne sont jamais tirées. Les démocraties sont incapables de reconnaître publiquement leurs erreurs. George Bush et Tony Blair n'ont jamais eu à rendre compte des méfaits de leur politique, a-t-il pointé au sujet des dirigeants américains et britanniques qui ont lancé l'offensive en Irak en 2003. On se souvient donc de la position du discours flamboyant de Dominique de Villepin devant l'Assemblée générale de l'ONU, ou c'était devant le Conseil de sécurité, je ne sais plus, disant qu'il ne fallait pas faire cette guerre. Hein. Et de toute façon, on avait dit que c'était une guerre parce que, vous savez, les armes de destruction massive, etc., etc. Voilà. Et donc, Dominique de Villepin, très critique là-dessus. Ça a été son meilleur moment, parce que par ailleurs, dans ses rapports avec les pays africains, en particulier avec les colonies, les ex-colonies françaises, il a été d'un colonialisme achevé. Donc, je ne blanchis pas Dominique de Villepin pour ce superbe discours devant l'ONU qu'il a marqué comme un peu son chef-d'œuvre, son meilleur moment. Mais il n'hésitait pas, et il l'a fait en particulier avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, à avoir le pire des comportements colonialistes. Donc, pas de blanc-seing sur M. de Villepin, qui c'est trop facile de dire que les armées n'arrangent rien quand on a organisé ce qu'il a organisé, en Côte d'Ivoire en particulier. Je reviens un tout petit peu sur les BRICS, puisque les BRICS, en plus, dans la mesure où ils coopèrent, ils ont des projets communs, ils veulent travailler dans le concret, pas simplement se réunir les chefs d'État et parler d'affaires générales. Ils ont créé une banque, donc à tous les cinq, une banque qui s'appelle la Nouvelle Banque de Développement, qui est une banque modeste à la Libye, comparée par exemple au Fonds monétaire international, mais en fait, c'est quand même, elle a un capital de 100 milliards de dollars, et elle investit dans des projets dans un des cinq pays, sur la base de dossiers qui lui sont présentés, alors surtout dans le domaine de l'aménagement urbain, des pollutions, transport collectif, réseau d'eau, etc., enfin, la vie quotidienne des habitants. Et elle a des projets qu'elle approuve et elle finance des projets comme une banque de développement. Et ce que je voulais noter, et j'en finirai là-dessus, cette banque de développement, cette nouvelle banque de développement, donc des 5 des BRICS, elle vient d'accepter dans son conseil d'administration, donc d'ouvrir son capital. Alors écoutez bien, parce que c'est très très intéressant. Elle vient d'accueillir les Émirats Arabes Unis, l'Uruguay et le Bangladesh. Et donc, c'est très divers et qu'on trouve des pays de différentes... Alors, deux pays de musulmans principalement, un pays très, très chrétien, l'Uruguay voisin du Brésil. Donc, en fait, les gens qui viennent là et qui mettent de l'argent parce qu'ils en ont, vont aussi participer à ces travaux en commun et ces programmes de développement urbain, lutte contre la pollution, développement des réseaux de transport en commun, des sujets très, très concrets. Et la nouvelle banque des BRICS, elle est là pour les financer. C'est dire qu'il se passe aussi des choses sur un terrain tout à fait concret. Et je voudrais finir, puisque j'ai évoqué indirectement la question du 11 septembre, puisqu'on a commémoré ici et là le 20e anniversaire du 11 septembre, je veux dire le 11 septembre 2001, qui ne doit pas faire oublier le 11 septembre 1973, j'en dirai quelques mots. Alors le 11 septembre 2001. Alors, il y a eu, bon, je passe sur les discours qui ont été tenus, les cérémonies, le souvenir, la douleur, les familles, les morts, etc. Il y a eu 2700 morts et quelques de recensés dans l'effondrement des deux tours de New York. Mais je voudrais quand même m'arrêter, d'une part, sur ce qui n'a pas été clarifié à propos des attentats du 11 septembre. Alors, ce qui n'a pas été clarifié, c'est que tout le monde a vu, alors il y a eu 4 détournements d'avion, on vous l'a dit. Tout le monde a vu, vous avez vu, autant de fois que nécessaire, les deux avions qui percutent les deux tours de New York, il n'y a pas de problème. L'avion du Pentagone, personne ne l'a vu. Personne n'a vu l'avion du Pentagone, pour la bonne raison qu'il n'y a peut-être pas eu d'avion, parce qu'un avion à 700 à l'heure qui arrive à raser une pelouse sans déranger l'herbe et à faire un trou dans le Pentagone qui n'est pas une tour, c'est un avion qui relève du miracle, c'est un pilote de... pilote de voltige qui fait ça. Bon. Donc il n'y a pas eu d'avion dans le Pentagone, il y a eu probablement un missile qui a fait un trou dans le Pentagone, heureusement dans une aile qui était en travaux, donc il n'y a pas eu de victime humaine. Bon. Et puis le quatrième avion, celui qui a fait un trou dans le terrain en Pennsylvanie, on a vu des vagues morceaux, mais on n'a pas vu de morceaux d'avion, ni un réacteur, ni un empennage, on n'a rien vu. Bon. Donc il y a peut-être eu 4 avions, on n'en a vu que 2. Première question. Deuxième question. Dans la région des États-Unis qui va de New York à Washington, cette région est très très protégée militairement. Il s'agit du cœur, non seulement des États-Unis, mais de la diplomatie mondiale et de la principale puissance mondiale. Donc les cas de détournement d'avion sont prévus dans des procédures extrêmement rigides et très très claires. Il y a sur place, aux alentours de Washington et de New York, des aéroports, des aérodromes de l'armée de l'air des États-Unis, et au bout de quelques minutes d'un détournement d'avion, les avions de l'US Air Force prennent l'air et vont à proximité de l'avion qui a été détourné, lui envoyer des signaux pour lui dire qu'il doit atterrir, et s'il n'obéit pas à ces signaux, qui sont classiques dans les manuels de l'OACI, etc., donc je passe le détail, si l'avion, les consignes sont claires, si l'avion n'obéit pas à la demande donc, d'atterrir, il est abattu. Bon, il se trouve que le 11 septembre 2001, cette procédure n'a pas fonctionné, les avions n'ont pas pris l'air, et donc les quatre ou les deux avions ont atteint leur cible. Étrange, que s'est-il passé ce jour-là ? Autre chose étrange, vous avez tous vu les deux tours qui s'effondrent, bon, ça c'est tout à fait clair et visible, vous avez beaucoup moins vu, puis on en parle beaucoup moins, vous ne savez pas que l'après-midi du 11 septembre, un peu plus tard dans l'après-midi, il y a une troisième tour qui est tombée, mais qui n'avait été percutée par aucun avion. Et qui s'est écroulé exactement de la même façon, donc écroulement à la verticale, comme les deux tours. Elle était plus petite, elle n'était pas très loin des deux premières. On n'a jamais eu d'explication. Alors quelqu'un dit qu'il y a eu un feu, mais on ne sait pas s'il y a eu un vrai feu qui permet. Alors, bien sûr, tous les architectes, tous les ingénieurs en béton, etc., disent qu'un feu, de toute façon, ne peut pas détruire une tour avec une armature d'acier telle que celle des tours de New York. Il reste toute une série de questions de ce type-là. Il reste une autre question, et là, il y a des familles, des victimes, donc des 2700 décédés du 11 septembre à New York, qui disent il y a eu un rapport officiel sur les attentats du 11 septembre qui a été élaboré par une commission spéciale. C'était un peu bizarre, ce n'était pas une commission parlementaire classique, ça ne donnait pas beaucoup de droits aux parlementaires, mais il y a eu un travail, une commission qui a été faite, qui a publié un rapport. Et avant qu'il soit publié, la Maison-Blanche en a retiré 20 ou 30 pages. qui n'ont jamais été publiées. Et les familles disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces 20 ou 30 pages qui fait qu'on ne l'a pas publié? Qu'est-ce qu'il y a de caché et qu'est-ce qu'on a voulu nous cacher? Nous avons des membres de notre famille qui sont morts dans des circonstances atroces et le gouvernement des États-Unis sait des choses et il ne les dit pas. Et il nous doit, en tant que citoyen américain, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces pages qui ont été enfouies et qui sont inaccessibles. Voilà une série d'événements, de questions qui restent posées sur le 11 septembre. Et puis, il y en a d'autres que je vais résumer rapidement. Il a été dit dans les jours, dans les heures suivant immédiatement les attentats, qu'il y avait des échanges de communication téléphonique entre des personnes qui étaient dans les avions détournés, et en particulier un très haut fonctionnaire qui était en poste à la Maison-Blanche, qui aurait parlé avec sa femme, qui lui aurait dit que les terroristes étaient avec des cutters en train de menacer le personnel et de prendre la place dans le poste d'équipage. Bon. Tous les techniciens des télécommunications, on est en 2001, hein, on est tout à fait dans les débuts de la téléphonie portable, disent qu'un avion à cette altitude ne peut pas, une communication par un portable ne peut pas atteindre la Terre. Donc tout ça, c'était des mensonges. Pourquoi ces mensonges, on ne sait pas. La deuxième question, c'est celle de l'héroïne. Il faut savoir que quand les talibans arrivent au pouvoir en 1996 à Kaboul, ils décident, conformément à leur doctrine, qui n'a pas changé autant qu'on sache depuis, d'arrêter la culture de l'héroïne. Bon, qu'est-ce qui se passe à partir de 2001? C'est une reprise de la consommation et de la production d'héroïne sur le sol afghan, au point que toutes les agences officielles, et l'ONU en premier, dit, et qui suit ça de très près, ben c'est un trouble général à l'ordre public mondial, que l'héroïne afghan, c'est 90% de la production mondiale d'héroïne. Donc, les talibans l'enlèvent, les États-Unis la remettent. Bon, c'est une question importante. Ensuite, le rapport entre l'Afghanistan et le 11 septembre, il est à peu près nul, puisqu'il est à peu près nul en ce sens que les talibans ne sont absolument pas responsables des attentats. Il n'y a aucun dans les accusés des attentats du 11 septembre, il n'y a aucun Afghan. Donc tout ce qui est reproché à l'Afghanistan, c'est d'avoir hébergé Oussama Ben Laden sur son territoire, après il s'est enfui, et alors que le FBI considère qu'il n'a rien comme preuve de l'implication de Ben Laden dans les attentats du 11 septembre. Donc c'est l'État, les Afghans qui payent, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, il y a aussi un blanc sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui est connu aussi, qui est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée du 11 septembre, puisque vous savez que le président George W. Bush était ce jour-là en train de visiter une école maternelle, je crois que c'était en Floride. Donc il était là, assis dans la salle de classe, à regarder les petits et l'institutrice qui faisait son cours. Un conseiller est venu lui dire qu'il y avait un avion qui avait percuté une des tours. Il ne s'est pas levé, il a continué à écouter les enfants faire leur séance. Et à partir de ce moment-là, il a passé la journée en l'air d'une base à l'autre, sans plus aucun contact avec la Maison-Blanche et avec le pouvoir. C'est-à-dire que George Bush a été écarté du pouvoir pendant 24 heures, il n'a rien maîtrisé. Et quand il est sorti de cet isolement, dont on ne connaît pas les causes et donc on ne connaît pas les décisionnaires, ceux qui l'ont décidé, eh bien, la décision de commencer la guerre contre le terrorisme était prise. On peut considérer que ce n'est pas lui qui l'a prise, elle a été prise, et quand il est revenu à sa condition de président, au bout de cette journée folle, il a dit, ben voilà, c'est la guerre contre le terrorisme. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler encore. Je remercie Clément. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve bien sûr mardi prochain.